Je donne maintenant la parole à Son Excellence Rimbink Patou, ministre des Affaires étrangères et de l'immigration de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Mr. President.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants, chers invités. La Papouasie-Nouvelle-Guinée rend hommage au président sortant de l'Assemblée générale, Son Excellence Mogens Liketoft, pour l'exceptionnel travail qu'il a réalisé à la tête de l'Assemblée générale au cours de l'année passée. La Papouasie-Nouvelle-Guinée se réjouit de voir pour la première fois un représentant des îles du Pacifique présider cette auguste Assemblée générale à l'occasion de la 71e session. Nous le félicitons, à l'instar de tous les autres pays, pour son élection historique. Et nous souhaitons donc à Monsieur Peter Thompson, Son Excellence l'ambassadeur Peter Thompson, une présidence couronnée de succès. Nous nous réunissons ici dans un monde frappé par de multiples crises humanitaires, politiques, économiques, sociales, ainsi qu'une paix et une sécurité ébranlées. Ces problèmes revêtent des dimensions sans précédent. Nombreux sont les pays, y compris le mien, qui n'ont pas été épargnés par l'incidence des problèmes mondiaux. Nous continuons d'en souffrir. Ces défis ne pourront pas être surmontés à court terme ou par les pays à eux seuls. Cela nous rappelle l'importance qu'il y a pour nous de renforcer notre détermination dans le respect de l'esprit et de la lettre de la Charte des Nations Unies. Les souffrances de millions de réfugiés, de migrants et de personnes déplacées dans leur propre pays, ainsi que la mort de très nombreuses personnes qui ont payé la volonté de partir de leur vie, ne devraient pas être acceptées. Cela ne devrait pas devenir la nouvelle norme. Aucun pays n'est à l'abri de ces problèmes en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en partenariat avec l'Australie, nous accueillons un centre régional de traitement des demandes d'asile sur l'île de Manus. Ce centre abrite des personnes qui ont fait des traversées périlleuses pour fuir des régions troublés du monde, comme le Moyen-Orient ou l'Asie. Cet arrangement bilatéral a été marqué par plusieurs controverses, mais mon gouvernement a tout de même accepté la décision de la Cour suprême, adoptée plus tôt cette année, qui avait ordonné de fermer le centre, le jugeant inconstitutionnel. Mon gouvernement est donc en train de démanteler ce centre, et nous cherchons d'autres solutions avec l'Australie afin de réinstaller ces réfugiés qui ne souhaitent pas s'installer en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous sommes attachés à la recherche d'une solution globale à ce problème, un problème qui met à mal la dignité humaine et les droits de l'homme également. Nous nous engageons à agir avec la communauté internationale pour remédier aux causes profondes de ce problème et pour mieux venir en aide aux personnes concernées, aux pays touchés par ce phénomène, pays d'origine, de transit ou de destination. Il faut que dans ces efforts, nous soyons guidés par la dignité afin de mettre fin aux pratiques inhumaines. Nous saluons dans ce contexte le leadership dont a fait preuve le secrétaire général des Nations Unies ainsi que d'autres dirigeants du monde qui ont décidé de prendre à bras-le-corps ce problème en organisant notamment un sommet à Istanbul, un sommet sur l'action humanitaire au mois de mai dernier, ainsi que d'autres réunions de haut niveau sur le problème des migrants et des réfugiés. Papouasie-Nouvelle-Guinée se félicite également de l'adoption ce matin par le Conseil des droits de l'homme d'une série de recommandations dans le cadre de l'examen périodique universel de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce qui est le deuxième examen de ce type. Mon gouvernement, en effet, est attaché à mettre en œuvre toutes les recommandations qui figurent dans ce rapport. Notre constitution, la constitution de mon pays, garantit la protection et la promotion des droits de l'homme. C'est un principe sacro-saint qui a toujours été respecté, auquel nous tenons. Ce sont les mêmes droits et libertés énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que dans d'autres traités internationaux relevant du droit international. Donc, la Papouasie-Nouvelle-Guinée s'est également engagée dans la mise en œuvre du programme à l'horizon 2030 pour le développement durable et d'autres accords multilatéraux dans le cadre de notre stratégie nationale pour le développement durable responsable et en s'appuyant également sur notre plan de développement à moyen terme et notre vision stratégique sur le long terme intitulée Vision 2050 qui est une feuille de route en matière de développement et qui vise à faire émerger une nation prospère, sûre, saine, pacifique et progressive. L'importance de respecter les droits fondamentaux de nos citoyens continue d'être une priorité dans ce contexte. Pour nous, pour réaliser les droits et les libertés de tous, tout en assurant le développement durable, il faut permettre un renforcement de l'état de droit, de la bonne gouvernance, renforcer les capacités, la croissance économique, les partenariats, l'appropriation nationale, le leadership et respecter l'environnement. Notre attachement aux droits de l'homme est également démontré par notre participation de longue date au comité spécial des Nations Unies sur la décolonisation qui a pour but de répondre aux aspirations en matière d'autodétermination des peuples et territoires colonisés. C'est un processus qui doit être mené à bien et notre attachement à ce processus est inébranlable. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est également préoccupée que la communauté internationale, malgré tous ses efforts, ne soit pas en mesure de contenir les guerres économiques, religieuses, ethniques et autres, ainsi que le terrorisme. Mon gouvernement espère néanmoins que les réunions de haut niveau organisées au cours de l'année passée aideront à remédier aux causes profondes de ces conflits. Nombreux sont les conflits aujourd'hui qui sont alimentés par la prolifération des armes à feu et notamment des armes légères et de petit calibre. Dans ce contexte, nous nous félicitons des efforts visant à réglementer le commerce des armes. Cela aidera à atténuer la gravité des conflits et peut-être réduira le déplacement des populations. La Charte des Nations Unies et le programme à l'horizon 2030 sur l'objectif 16. L'objectif 16 en particulier de ce programme font le lien entre la paix, la sécurité, le développement durable, qui sont autant d'éléments indispensables pour garantir le bien-être de l'humanité. Nous saisissons cette occasion pour travailler main dans la main afin de résoudre les conflits en ébullition et les tensions qui sont nombreuses dans le monde aujourd'hui et qui entraîne des tragédies dans de nombreuses régions du monde avec des répercussions extrêmement graves pour ceux qui sont directement touchés, bien sûr, mais également pour le reste de la communauté internationale. Nous pensons qu'il faut appeler les belligérants dans les situations de conflit à renoncer à la violence et à trouver des solutions pacifiques au conflit. Sur les armes nucléaires et les autres armes de destruction massive, nous souhaitons rappeler que nous sommes fermement opposés à l'existence de ces armes, à leur utilisation et même aux essais qui peuvent être réalisés. Le désarmement complet sur le plan nucléaire est ce qu'il faut ce à quoi il faut aspirer si nous voulons que le monde soit véritablement en paix. À cet égard, nous sommes préoccupés par les essais de missiles et d'armes nucléaires réalisés par la République populaire démocratique de Corée. Cela contrevient à toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous condamnons fermement ces actes qui menacent la paix et la sécurité mondiale et régionale. Mon pays apporte sa contribution à la paix par le biais notamment des opérations de maintien de la paix au Soudan du Sud et au Darfour, et nous sommes prêts à travailler à l'avenir avec l'ONU et tous les autres acteurs compétents pour aider au maintien de la paix à l'échelle internationale. Nous avons tiré des enseignements importants, parfois difficiles, de notre propre conflit armé dans la région autonome de Bougainville il y a 20 ans. Et nous remercions l'ONU et ceux des partenaires qui nous ont apporté leur appui pour le règlement de ce conflit. Au plan régional, nous continuons d'appuyer la mission d'assistance régionale dépêchée aux îles Salomon dans sa transition. Cette mission, en effet, devrait se retirer au mois de juin prochain. 2016, Monsieur le Président, a été marqué par des réalisations importantes. Le programme à l'horizon 2030, notamment, qui souligne l'importance qu'il y a d'éliminer la pauvreté, de veiller à ce que personne ne soit laissé de côté. Aujourd'hui, c'est le moteur de la coopération multilatérale et bilatérale. Et c'est également le pilier sur lequel s'appuient les mesures nationales visant à améliorer les conditions de vie de tous. Nous nous félicitons du thème choisi pour cette session de l'Assemblée générale, car il est vrai que pour réaliser le programme à l'horizon 2030, il faut certes déployer des efforts à l'échelle nationale, mais il est indispensable de mobiliser également l'aide des partenaires en matière de développement. Nous appuyons dans ce contexte l'examen de haut niveau des ODD et nous nous engageons à faire en sorte qu'il soit pleinement mis en œuvre en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à l'échelle mondiale. Nous sommes d'accord avec le forum politique de haut niveau qui a reconnu que le programme à l'horizon 2030 dépend en grande partie du renforcement de l'appropriation nationale et du leadership à l'échelle nationale, d'un engagement multipartite et des partenariats, et qu'il faut changer notre modèle d'action. Ceci est indispensable. Mon gouvernement s'est engagé à tirer les enseignements des objectifs du millénaire pour le développement. Nous sommes en train d'ailleurs d'intégrer les ODD au plan national dans le cadre de notre stratégie nationale pour un développement responsable et durable, le programme STARS. Et comme je l'ai dit, nous nous appuyons également sur le plan de développement à moyen terme et sur notre vision stratégique à long terme, vision 2050. Mon gouvernement reconnaît que le programme à l'horizon 2030 est synonyme d'amélioration sur le plan de l'infrastructure, de l'éducation, de la santé, en matière de croissance économique. Et nous sommes déjà en train de mettre en œuvre des mesures dans tous ces domaines. Nous avons notamment mis en place une structure de gouvernance décentralisée, solide, qui permet à nos 89 districts d'être financés pleinement financé et de participer à l'identification, à la mise en œuvre des priorités en matière de développement national, en s'adaptant aux besoins de chaque région. Nous associons également le secteur privé, les organisations confessionnelles et la société civile à ces efforts, car ce sont des valeurs ajoutées dans le cadre de notre développement national. Nous soulignons en outre l'importance qu'il y a de mobiliser des ressources financières en essayant de chercher de nouveaux modes de financement. C'est la raison pour laquelle le programme d'action Addis Abeba est crucial et doit être pleinement mis en œuvre. Au plan national, nous avons récemment conclu une réforme du système fiscal visant à renforcer la mobilisation des ressources financières à l'appui de notre programme de développement national. La réalisation des ODD au plan national dépend également de la croissance de la solidité de l'économie mondiale. Cela ne fait aucun doute. L'économie mondiale, néanmoins, est actuellement faible. Les prix des produits agricoles sont faibles, ceux du pétrole également, et cela entrave les efforts nationaux en matière de développement durable. Nous exhortons donc à ce que tous les pays fassent des efforts pour stimuler la croissance économique afin de donner plus de chances aux ODD. Pour nous, la coopération en matière de développement est également un élément important qui constitue une part importante du budget annuel consacré au développement. C'est une composante fondamentale dans le cadre de la réalisation des ODD. Pour nos partenaires en matière de développement, il est impératif d'adapter leur aide aux politiques de développement national, à nos stratégies et plans de développement, plutôt que d'entreprendre des efforts qui pourraient ne pas être utiles dans le contexte de notre pays. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est extrêmement exposée aux effets des changements climatiques également. Et pour démontrer notre attachement à la lutte contre les changements climatiques, nous avons appuyé l'adoption de l'accord de Paris en décembre 2015, accord qui a été signé par mon pays en avril 2016 et ratifié également. Nous avons déposé l'instrument de ratification hier. Nous nous félicitons de la ratification par de nombreux pays de cet accord de Paris et nous exhortons ceux qui ne l'ont pas encore fait, et en particulier les pays qui émettent de grandes quantités de carbone, à ratifier cet accord. Je suis également ravie de vous annoncer que nous avons signé un accord avec le Fonds vert pour le climat hier, un accord qui facilitera le financement de la mise en œuvre de nos contributions nationales dans le cadre de l'accord de Paris. En tant qu'archipel, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est préoccupée par la situation qui prévaut dans les océans, car une large partie de notre population dépend des océans. Nous avons également un patrimoine culturel extrêmement important lié aux océans et aux mers. La santé, la productivité, la résilience des océans et des mers, nous le savons, sont de plus en plus menacées en raison des activités mal réglementées ou non contrôlées, notamment la pêche INN, la pollution marine, le rejet de produits plastiques, les débris marins et l'acidification des océans. Pour mieux répondre à ces préoccupations, mon gouvernement a approuvé un plan qui sera mis en œuvre en partenariat avec nos partenaires en matière de développement pour établir un cadre législatif pour lutter contre ces pratiques. Au plan régional, sous l'égide du Forum des îles du Pacifique, des efforts collectifs seront entrepris pour promouvoir des océans sains, productifs et résilients. La Papouasie-Nouvelle-Guinée se félicite dans ce contexte de l'organisation d'une conférence des Nations Unies à l'appui de la mise en œuvre de l'ODD 14. Nous saluons également le gouvernement américain qui a convoqué une conférence sur les océans la semaine dernière pour voir comment nous pouvons répondre à ces inquiétudes en promouvant notamment les partenariats. Il est également important de veiller à ce que les activités en haute mer ne compromettent pas les efforts de préservation et d'utilisation durable des ressources océaniques dans notre juridiction nationale. C'est la raison pour laquelle nous exhortons à la conclusion du processus du comité préparatoire portant sur les éléments d'un projet de texte juridiquement contraignant dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la préservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Il faut que nous envisagions un avenir fondé sur le développement durable, sur une gestion et une conservation durable des océans. Nous devons être conscients de l'urgence de la situation et changer la manière dont nous abordons le problème il faut en effet qu'un changement véritable soit impulsé et nous devons commencer à agir dès à présent. La communauté internationale connaît trop bien la nécessité de réformer le système des Nations Unies, y compris de réformer le Conseil de sécurité. Ceci est indispensable pour refléter les circonstances et les réalités actuelles. La Papouasie-Nouvelle-Guinée reconnaît qu'il n'est pas facile de réformer une organisation et nous sommes conscients de la difficulté de la tâche, mais nous demeurons préoccupés quant à la lenteur des réformes engagées au sein des Nations Unies. Pour ce qui est du Conseil de sécurité, nous nous félicitons des progrès qui ont été réalisés, progrès réalisés surtout au cours de l'année passée, mais nous avons constaté que certaines procédures archaïques subsistent, notamment pour la sélection du secrétaire général des Nations Unies. Et malheureusement, cela n'a pas encore été réformé. Il y a une autre pratique dans le système actuel que nous condamnons, c'est la sous-représentation de femmes qualifiées dans les postes de responsabilité au niveau du secrétariat. L'ONU ne doit pas seulement prôner l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes, elle doit exercer ces pratiques et mettre en œuvre ces principes. La Papouasie-Nouvelle-Guinée salue néanmoins le secrétaire général des Nations Unies pour ses efforts visant à réformer le système des Nations Unies. Il faut poursuivre ces efforts pour que l'ONU soit bien réformée afin d'être mieux adaptée au monde d'aujourd'hui. Nous remercions le président sortant de l'Assemblée générale qui a pris l'initiative de renforcer la transparence et l'inclusivité au sein des Nations Unies. Dans le cadre de la sélection du secrétaire général des Nations Unies qui a longtemps été un processus opaque et fermé. Pour conclure, Monsieur le Président, la Papouasie-Nouvelle-Guinée espère que le processus de sélection du secrétaire général sera mené à bien d'ici à la fin décembre 2016. Et nous espérons pouvoir travailler avec le prochain secrétaire général en étroite coopération pour appuyer ce programme de réforme. J'aimerais également rendre hommage au secrétaire général Ban Ki-moon pour tout ce qu'il a accompli à la tête de l'organisation au cours des 10 dernières années. Au cours de ses 2 mandats, le secrétaire général a été confronté à des défis sans précédent. Pour nous, vous avez également été le défenseur des petits États insulaires en développement et de la région Pacifique. Nous vous en remercions. Vous vous êtes rendu 2 fois dans notre région et vous avez également permis le lancement d'un dialogue annuel régulier avec les dirigeants du Forum des îles du Pacifique. D'ailleurs, une réunion aura lieu dans ce contexte demain. Cela témoigne de votre vision et de votre leadership sur les questions régionales. Je vous souhaite à vous et à Madame Ban une bonne santé et plein succès dans vos projets futurs. Merci, Monsieur le Président.
Ministre des Services publics de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Merci. Je donne maintenant la parole à Son Excellence Yung Buyung Si,